Vous écoutez
RMC.
RMC jusqu'à 18h.
Intégral Tour.
Christophe Cessieux.
17h05, vous êtes sur RMC, on va vivre le final de cette 13e étape du Tour de France puisque nous sommes à moins de 20 km désormais de l'arrivée à Saint-Etienne avec toujours une physionomie identique quasiment depuis le départ de cette étape avec un groupe de 6 qui continue de maintenir son avance ou presque. Pierre-Yves, tout de suite le top course.
20 km encore à parcourir dans cette étape. 2 minutes 15 d'avance pour les hommes de tête. Philippe Ogana, Matteo Jorgensen, Fred Wright, Stephen Kung, Mats Pedersen et Hugo Hull. Ils sont 6, ils ont des grosses cuisses. Ils sont capables d'aller au bout, à mon avis, parce que derrière, seuls les Bike Exchange roulent pour le moment. C'est un vrai pari pour essayer de revenir. Attention, un souci mécanique pour Hendrik Maas, à l'instant un leader en difficulté à 20 km de l'arrivée. Ça peut être un souci pour la Movistar.
2 minutes 15, messieurs, les carottes sont cuites pour les hommes du peloton. Cyril ?
Eh bien, si elles ne sont pas cuites, elles ne sont pas loin de l'être. Mais je pense que cet écart-là, aujourd'hui, à l'instant T, je pense que le peloton ne peut pas revenir à une seule exception. C'est si les Jumbo se mettent à rouler pour offrir une victoire de plus à Watt.
Ouais, il faudrait quand même s'y mettre à un moment donné. Hein.
Oui, mais là, s'ils s'y mettent, ils vont boucher vite. Hein.
Oui, ça c'est sûr que. Mais bon, Wout van Aert ne sera pas justement là pour assurer des relais. Sans lui, c'est pas tout à fait la même chose. Jérôme.
Oui, pour l'instant, ça a basculé. Hein. Depuis la chute de Caleb Ewan, ça a basculé en faveur de l'échappée. On sait que les Bike Exchange sont que deux à rouler. Devant, vous avez Philippe Ogana qui roule déjà pour deux, Stefan Kung pour deux aussi. Ils sont quasiment 10 finalement à l'avant du peloton avec deux très bons rouleurs comme ça. Ça paraît compliqué hein, pour l'instant pour le peloton de revenir. Sans la chute de Caleb Ewan, je pense que l'échappée était condamnée. Mais là, ça a vraiment été le tournant de la course pour l'échappée. Et je pense que la victoire va jouer entre les 6 hommes de tête.
Si les Jumbo se mettaient à rouler, est-ce que vous imaginez Vingegaard se mettre à la barre pour Wout van Aert?
Non, attendez. Je pense même pas.
Julien Alaphilippe le fait bien.
Oui, mais il jouait pas la victoire à Paris. Oui. Il avait le maillot jaune, mais il jouait pas la victoire à Paris. Mais moi, je pense même pas que Jumbo vont rouler. Je vois pas vraiment quel intérêt à part exciter encore tout le peloton, risquer encore d'augmenter le risque de chute. Je vois pas vraiment leur intérêt pour eux de rouler. Faut qu'ils s'économisent un petit peu. Hein. Il y a des jours où dans les Pyrénées où ils vont vraiment devoir tenir la barre à l'avant du peloton. Toutes les étapes où eux ne roulent pas sont des étapes bonnes à prendre.
Et ils ont roulé quasiment juste hein, depuis le départ de ce Tour de France, mis à part cette très longue échappée de Van Aert il y a quelques jours. Autrement, franchement, ils n'ont pas fait beaucoup d'erreurs tactiques et ils ont déjà l'objectif du maillot jaune, l'objectif du maillot vert. Ils ont déjà remporté combien ? 3 étapes, 2 pour Van Aert, 1 pour Vingegaard. Voilà, je pense que le panier est bien rempli pour la formation.
On peut ajouter le classement par équipe peut-être.
Le classement par équipe en plus.
Le maillot vert, certainement. Ils ont déjà presque tout raflé.
Ouais, ils ont tout raflé. Donc, laissez-en un petit peu aux autres, messieurs.
Un autre élément qui peut permettre, pourquoi pas, au peloton de revenir, mais là, c'est Arnaud qui va pouvoir nous en parler. C'est si devant, on commençait à se regarder un petit peu, ou si un garçon démarrait. Est-ce que ça s'entend bien, Arnaud, devant ?
Bon, c'était effectivement l'éventualité que j'étais en train d'imaginer. Pour l'instant, on n'en est pas du tout là. Hein. Les relais qui se prennent très très bien depuis le début de l'étape. Pour l'instant, on n'en est pas encore à un scénario de mésentente dans cette échappée. Mais après, il y a des hommes qui vont devoir prendre des initiatives. Je pense à Stefan Kung, je pense à Philippe Ogana, notamment s'ils veulent s'imposer, parce qu'il y en a un qui est plus rapide que tous les autres. C'est évidemment Mats Pedersen dans ce groupe. Donc voilà, forcément, ça va quand même à un moment, à mon avis, ne plus s'entendre aussi bien que ça n'est le cas actuellement.
Percevoir à l'instant à côté de la voiture de la Movistar. Qui est au volant de la Groupama FDJ? Est-ce que c'est un vainqueur de Paris-Roubaix?
Oui, absolument. Le dernier d'entre eux.
Voilà, et on est serein du côté de Fred Guédon?
Enfin, le dernier français.
Est-ce qu'on est serein du côté de Fred Guédon?
En tout cas, on fait passer des petits messages dans la radio. Là, c'est précisément ce qu'il est en train de faire. Je dirais pas serein, je dirais plutôt très concentré et très décidé, peut-être à tenter quelque chose pour Stefan Kung. On connaît ses qualités de rouleur.
Alors, il y en a un qui fait peur évidemment aux 5 autres. C'est Mats Pedersen qui est probablement le plus rapide au sprint. Si les 6 hommes devaient se livrer la bataille sur la ligne d'arrivée, il va falloir le faire péter celui-là à un moment donné. Hein, et peut-être dans la dernière difficulté, c'est dans combien de temps là ça arrive, hein.
On va arriver dans dans 5-6 km à peu près au pied de cette partie non répertoriée. Oui, il faudra essayer de le faire péter. Intrinsèquement, c'est le plus rapide. Peut-être que le moins rapide serait Hugo Hull. Encore à voir, on est en fin d'étape comme ça. Mais certains coureurs, il l'a dit Arnaud, hein, Philippe Ogana, Stéphane Kung par exemple, avec leur qualité de rouleur, peuvent essayer d'attaquer. Et on sait que s'ils prennent juste 8 ou 10 secondes, c'est très difficile à boucher sur des rouleurs d'une telle envergure. On va avoir du mouvement dans les 6 hommes de tête d'ici la ligne d'arrivée.
Hugo Hull, le champion du Canada du contre-la-montre 2015 et 2021.
Voilà, on rappelle que le Tour de France... Oui, Arnaud ?
Non, juste un mot, j'étais en train de me faire la réflexion également que Mats Pedersen et Stephen Kung avaient déjà dans un coup similaire été opposés l'un à l'autre lors des championnats du monde de cyclisme en 2019 à Harrogate, voilà, et Stephen Kung avait eu beaucoup de mal justement à se défaire de Mats Pedersen ce jour-là qui avait été sacré champion du monde.
Mats Pedersen qui aimerait bien décrocher une nouvelle victoire pour le Danemark. On rappelle que le Tour de France s'était lancé de Copenhague il y a un peu plus de 15 jours maintenant et que jusqu'à présent ça sourit aux Danois avec Magnus Cort Nielsen, avec évidemment Jonas Vingegaard, vainqueur d'étape et maillot jaune. C'est vraiment ça leur a donné un élan supplémentaire, le fait que le Tour démarre de chez eux, les Danois, hein.
Oui, ça motive forcément quand vous partez dans votre pays. Voilà, Magnus Cort Nielsen crève l'écran depuis le départ au Danemark, mais Pedersen était aussi échappé, hein, plusieurs fois, donc il a vraiment une très bonne condition physique sur ce Tour de France. Il va très vite, Vingegaard, maillot jaune, voilà, ils sont pas nombreux au départ, mais pour l'instant ils tiennent tous très bien leur rang.
Le cyclisme danois plus performant que le cyclisme français finalement, Cyril, ils sont peu nombreux dans leur pays, mais les champions sont vraiment de top niveau, hein. Oui, sans parler de la Slovénie.
Oui, sans parler de la Slovénie qui est encore un pays beaucoup plus petit, 2 millions d'habitants je crois, la Slovénie.
Je sais plus exactement.
Et on peut comparer en termes de superficie, en termes d'habitants, le Danemark à la Bretagne. Donc effectivement, si on fait cette comparaison-là, le Danemark a beaucoup plus de coureurs en World Tour que la Bretagne.
Voilà, 2 100 000 habitants lors du dernier recensement, c'était en 2020, donc pour la Slovénie, un peu plus pour le Danemark. 14 km de l'arrivée, Arnaud sur la moto, les 6 hommes de tête possèdent toujours 2 minutes 15 d'avance et écart inchangé, alors que derrière les Bike & Change continuent de rouler, mais sans aucun résultat pour le moment.
Et ça continue à très très bien s'entendre devant, donc dans cette configuration là je vois pas comment le peloton pourrait revenir derrière. Ça continue à rouler, on est en train de traverser une localité, on est à plus de 45 km/h actuellement pour les hommes de tête. On fait les petits derniers ravitaillements, on va dire. On a vu notamment Mats Pedersen venir s'arroser, venir prendre un bidon à sa voiture de directeur sportif histoire de se rafraîchir un petit peu avant que les choses sérieuses ne commencent dans quelques kilomètres. On voit des panneaux Saint-Etienne, ça y est, le final qui s'annonce dans quelques instants.
Explosion des Bike & Change.
Oui, et chose surprenante, c'est Michael Matthews qui vient de se placer en tête de peloton, alors que c'est lui éventuellement sur une telle arrivée qui pouvait être mis dans les favoris. Fini. Ouais, c'est fini. Il se relève justement à l'instant quand il a vu Michael Matthews que c'était lui qui était obligé de rouler. Il a compris que c'était perdu pour le peloton. Ouais. Eh bien, ça va jouer devant cette étape. Parmi les 6 hommes de tête, Michael Matthews a compris la charge est trop compliqué.
Je pense que c'est Groenewegen qui a donné l'information. Il est encore là, donc c'est pour ça que Matthews a été roulé avec Mesgek. Finalement, c'était dans l'optique d'emmener Groenewegen à l'arrivée, mais on a vu Groenewegen parler à l'oreillette et tout de suite Michael Matthews s'est écarté. Il a dû dire, ah, c'est bon, laissez tomber les gars, il y a encore 2 minutes 15, c'est trop tard, on n'arrivera pas à rentrer, on va s'économiser jusqu'à la ligne d'arrivée.
Et voilà. Voilà, c'est terminé. On a bâché derrière, on va rouler tranquillement avec les hommes de Vingegaard qui sont à l'avant-garde du peloton, également un équipier de Geraint Thomas. Ils ont abdiqué le peloton et l'écart va grandir dans quelques instants. Il est repassé désormais à 2 minutes 20. Devant, on va peut-être s'économiser d'ailleurs. On va peut-être essayer de retrouver des forces parce qu'on sait maintenant, on va être informé en tout cas que c'est chose faite et que ça va jouer entre ces 6-là, même s'il faut en éliminer quelques-uns.
Ils sont déjà informés que le peloton s'est relevé, hein, avec les oreillettes. Ça va très vite maintenant. Et voilà, ils vont pouvoir jouer un peu plus stratégique maintenant. Ils vont en garder un petit peu sous la pédale. Ils ont de la marge. Ça va jouer entre eux. Qui va dégainer le premier? On sait souvent celui qui attaque le premier, c'est pas forcément celui qui va au bout. On a différents profils, hein. On a deux rouleurs d'exception. Eh ben,
C'est parti avec Mats Pedersen. Alors ça, c'est une surprise, c'est parce que Mats Pedersen, vas-y Arnaud.
Non, non, je t'en prie. Non, c'est juste, je pensais que vous n'aviez pas vu. C'est Mats Pedersen, effectivement, qui allume la première mèche, et Stefan Kung qui va essayer de combler le petit trou. Effectivement, tu le disais, c'est quand même assez surprenant de la part de l'homme qui, a priori, est le plus rapide au sprint. Mais il voudrait peut-être éviter, justement, eh bien, pourquoi pas de se faire distancer dans les quelques kilomètres qui monteront tout à l'heure. En tout cas, Mats Pedersen qui a pris quelques mètres d'avance sur le reste des troupes. Et Gana qui ont fait les frais.
Voilà, bien joué de la part de Mats Pedersen, parce qu'il n'y a que deux garçons qui arrivent à suivre pour l'instant. C'est Fred Wright et Hugo Hull. Kung va rentrer. Kung va rentrer très certainement, mais Gana, c'est plus compliqué. Et Kung est aussi en difficulté. Il est relayé à l'instant, mais il y a déjà 30 mètres de différence. Et Mats Pedersen va continuer à appuyer lourdement sur les pédales.
Voilà, Mats Pedersen qui a été le premier à sortir de ce groupe d'échappés, rattrapé par deux coureurs, alors que Stefan Kung, Philippe Pogana sont un petit peu plus loin, à une cinquantaine de mètres derrière. Mats Pedersen qui appuie très fort sur les pédales, Jérôme. Hein.
Oui, plus que très fort. J'aimerais pas trop être à la place de Wright et de Hugo Hull derrière. Ils n'arrivent pas à prendre des relais. Alors, il s'est écarté, il a demandé un relais, mais il ne passe pas pour l'instant. On voit Hugo Hull qui a la tête penchée sur la gauche. Ça a l'air vraiment très difficile. Et dans la partie finalement un peu plus dure, on se disait c'est là qu'ils doivent essayer de lâcher Pedersen. Bah, finalement, ça semble être lui le plus fort de cette échappée. Il a créé une première décision. Ils sont plus que trois à l'avant. S'ils arrivent tous les trois, bien sûr, Pedersen a une longueur d'avance.
On est dans la difficulté non répertoriée en ce moment-là, oui, c'est ça, hein, effectivement. Et Mats Pedersen, on pensait qu'il allait peut-être péter dans cette montée, et c'est lui qui fait péter la plupart de ses anciens compagnons d'échappée. Derrière, c'est très dur pour Stefan Kung, le coureur suisse de la formation Groupama FDJ. La moto RMC, Arnaud, à l'avant.
Ouais, très très dur effectivement pour Stefan Kung, pour Matteo Jorgensen et pour Filippo Ganna qui a été le premier à craquer, mais c'est lui actuellement qui tient la barre de ce groupe de poursuivants. Ça a l'air quand même relativement compliqué, et on voit devant les trois hommes de tête, à commencer par donc Mats Pedersen, continuer à prendre de l'avance. Il y a actuellement une douzaine de secondes d'écart entre les deux groupes.
Bien joué, hein, de la part de Mats Pedersen. Il savait où était son point faible et il en a fait un point fort en accélérant justement dans cette petite bosse non répertoriée. C'est là où c'est important aussi d'avoir des directeurs sportifs qui travaillent pour vous, qui repèrent le parcours, ou même vous, à titre personnel, Jérôme. Aujourd'hui, il y a des outils sans aller sur la route qui permettent de voir un peu le profil d'une étape.
Bien sûr, Google Earth, toutes ces applications comme ça qui permettent de voir la fin d'étape, mais toutes les équipes envoient soit des directeurs sportifs, soit des assistants à l'avant en éclaireur qui vont leur indiquer, voilà, les 10 derniers kilomètres, c'est comme ça, ça monte, le vent est comme ça, telle partie est dégagée, telle partie est abritée, on peut essayer de faire l'effort ici. Il y a la bosse et non répertoriée, le sommet sera à 7 km de l'arrivée, etc. Les coureurs ont toutes ces informations, et Pedersen semble vraiment le plus fort de l'échappée, avec Wright, hein, qui fait bonne impression. Hugo Hull est là aussi, mais il donne toujours l'impression d'être à bloc avec sa tête penchée, mais il est toujours là. Ils sont trois, et attention, un des deux, je pense que Wright ou Hull, va tenter sa chance aussi dans les kilomètres à venir.
Il y a Fred Wright et Hugo Hull, lui, a la tête à gauche, hein, il a la tête qui penche à gauche.
Ils sont trois. Donc Mats Pedersen, le Danois, Fred Wright, le Britannique, et Hugo Hull, le Canadien, pour aller se disputer cette victoire d'étape, alors que l'on passe à l'instant même sous l'abandon, l'indiquant les 10 derniers kilomètres. L'écart entre les trois hommes et leurs poursuivants est désormais de 16 secondes et continue de se creuser. Hein.
C'est bien joué, hein, vraiment, de la part de Mats Pedersen. Vas-y, Arnaud.
Non, vas-y, je te laisse la main, il n'y a pas de souci. Non, j'étais juste en train de me dire, non, il n'est pas de 16 secondes, il est un petit peu inférieur, mais enfin très légèrement inférieur, 12 secondes actuellement, ça s'est légèrement stabilisé, mais là, il y a un nouveau coup de cul, comme on dit dans le jargon, et ça risque de faire mal, notamment à Filippo Ganna et à Stefan Kung.
Fred Wright est un jeune coureur, lui aussi de la génération de Pogacar, 23 ans seulement, qui fait partie de cette équipe Bahrain Victorious. Le plus rapide, évidemment, au sprint, c'est Mats Pedersen, qui peut essayer de lui piquer la victoire d'étape aujourd'hui, là. Qui sur lequel vous miseriez?
Les deux autres, hein, peuvent lui piquer la victoire d'étape, mais Wright a l'air très bien. Rappelez-vous, à Lausanne, il s'est fait rattraper très proche de l'arrivée. À l'arrivée à Megève, à l'Altiport, il est revenu aussi dans le sprint au moment où son coéquipier Luis Leon Sanchez, lui, a lancé le sprint. Donc ça fait quelques étapes qu'il est très bien, Fred Wright. Maintenant, pour se débarrasser de Pedersen, on s'attendait à ce que ça se fasse dans cette bosse. Finalement, c'est lui-même qui a créé la décision. Ça va être dur maintenant pour les trois hommes de se départager, hormis une arrivée au sprint.
Fred Wright, qui est un spécialiste de la piste, ça peut jouer aussi au moment où on se regarde un peu dans les derniers kilomètres. Il va falloir être malin, on va voir si derrière, on sait jamais, ça peut encore rentrer, mais ça semble compliqué pour Kung et Ganna. Et puis le dernier, c'est Matteo Jorgensen qui s'est fait piéger. 3 à l'avant, 3 à l'arrière. Le peloton, lui, a abdiqué.
Eh oui, le peloton a bâché après que les coureurs et les coéquipiers de Groenewegen et Michael Matthews se soient rendus compte qu'il était impossible désormais de revenir sur les hommes de tête. Le peloton qui est désormais avec un retard de 3 minutes 32, alors que les trois hommes de tête continuent de creuser sur leurs trois anciens compagnons. On est aux alentours de 20 secondes désormais.
Ouais, et alors vraiment, c'est surprenant hein, que cette bosse ne soit pas répertoriée parce que ça monte, ça grimpe.
Et encore pendant 2 km. Hein, la bascule est vraiment à 7 km de l'arrivée. Ouais, alors pas répertoriée, mais elle a fait mal aux pattes. Elle continue à leur faire mal, mais les trois hommes s'entendent très bien. Il faut, même s'ils ont 20 secondes d'avance, qu'ils augmentent leur avantage sur les trois poursuivants, il faut qu'ils continuent à bien s'entendre le plus longtemps possible pour éviter tout retour de l'arrière.
Formidable rouleur que ce Mats Pedersen, alors que...
tentative de Hugo Hull qui sait qu'il est peut-être un petit peu en dessous et qui tente une accélération à nouveau lui pour lâcher Mats Pedersen dans la fin de cette montée. Mats Pedersen qui est obligé de se rasseoir sur sa selle. Pour l'instant il est bien, il a l'air costaud Mats Pedersen, il continue Hugo Hull quand même à accélérer, les trois hommes sont toujours ensemble. Hugo Hull va très certainement s'apercevoir que son attaque n'a pas fonctionné. Arnaud, il va très certainement se relâcher et se retourner.
Ouais, je suis derrière le groupe Kung Gana Jorgensen, donc je vais vous laisser.
Ah, ça fait barrage. Ça fait barrage pour toi.
Ça fait barrage. En tout cas, en revanche, je maintiens que l'écart est inférieur aux 20 secondes. Hein. Il est environ 4 ou 5 secondes inférieur à celui qu'on vous indique actuellement.
Hein. Très bien. Donc ça veut dire qu'il y a encore, pourquoi pas, une possibilité pour revenir pour les trois hommes derrière.
Ça ne creuse plus, effectivement, pour les trois hommes de tête qui se livrent un peu bagarre. Là, ils s'entendent un peu moins bien, Cyril. Ça peut-être permettre aux trois autres de revenir à condition que ceux-ci s'entendent bien. Et ça a l'air d'être le cas pour le moment.
Oui, derrière, de toute façon, il n'y a pas le choix. Tout le monde, les trois coureurs qui ont été distancés, eh bien, collaborent avec les moyens qui sont les leurs. Puisque, oh là, ça a failli aller par terre avec Ghana et une voiture de l'organisation. Et eux ne se posent pas de questions, il faut revenir devant. Ils ont encore une chance de pouvoir revenir sur l'avant, parce que dans le dernier kilomètre, les trois hommes de tête vont vraisemblablement arriver à s'en regarder, ralentir énormément. Tant qu'il reste à une vingtaine de secondes, dans le dernier kilomètre, ça peut encore rentrer.
S'il n'y avait pas la fatigue de cette étape, avec des garçons comme Ghana et Kung, ça n'aurait été qu'une. Ça aurait été facile de rentrer sur les trois hommes de tête parce que ce sont de formidables rouleurs. On rappelle Ghana, spécialiste du chrono, tout comme Stephen Kung, ce sont deux des trois meilleurs spécialistes du chrono au monde. Hein.
Bien sûr, là ils sont sur une partie qui va les avantager un petit peu, c'est un petit peu moins difficile, mais est-ce qu'ils ont encore un peu de gaz pour revenir à l'avant? Par contre, l'attaque de Hugo Hull tout à l'heure, elle était un petit peu téléphonée. C'est vrai que s'il veut surprendre ses deux compagnons d'échappée, il faut plutôt attaquer de l'arrière, même se laisser un petit peu décrocher et vraiment accélérer le plus fort possible pour arriver au niveau des deux autres coureurs avec un peu plus de vitesse pour essayer de les surprendre. Si vous attaquez et que vous êtes déjà en tête de groupe, vous n'allez pas les surprendre, c'est beaucoup plus difficile de sortir. Celui qui voudra piéger Pedersen, il faudra qu'il se mette en troisième position, qu'il se laisse un petit peu décrocher et qu'il l'attaque vraiment de l'arrière.
Et pour l'instant, ça s'entend très bien dans ce groupe de tête. On se relaye régulièrement, Pierre-Yves.
Oui, ça marche bien là entre les trois hommes qui se disent, bon bah au moins on a éliminé la moitié des garçons de l'échappée, maintenant ça va se jouer entre nous trois, on sera sur le podium. Alors c'est sûr que sur le Tour de France, c'est pas comme sur un championnat du monde, ça n'a pas la même valeur. Il faut gagner, la victoire est essentielle, mais bon, c'est déjà un peu d'élimination de réaliser, donc il faut bien s'entendre pendant encore 5 km, et puis comme ça, sous la flamme rouge, ensuite ça sera chacun sa peau, à condition d'avoir creusé avec les hommes derrière. Il y a 23 secondes actuellement, mais ça ne creuse pas beaucoup.
Hein. Ouais, mais ça monte une petite seconde par-ci, une petite seconde par-là. On en est désormais à 24 secondes, on n'a pas d'image de l'arrière, en tous les cas, du groupe de poursuivants qui s'est fait piéger tout à l'heure. On rappelle avec Stephen Kung, le coureur de la groupe AMFDG, avec Ghana de chez Ineos et Jorgensen, trois hommes qui n'ont rien pu faire et qui continuent de perdre du terrain. 25 secondes au dernier pointage.
Mats Pedersen toujours qui emmène devant Hugo Hull, bien calé dans la roue pour le moment. 6 km encore à parcourir et on se relaye parfaitement entre les trois hommes devant, avec le troisième homme, c'est Fred Wright, et c'est Hugo Hull actuellement qui met le relais.
Voilà, ça va très vite en tête de course. On est à 5 km 800 de la ligne d'arrivée. Cyril, que va-t-il se passer? Que faut-il faire pour tenter d'éliminer Pedersen? On sent que c'est quand même le plus costaud de ce groupe. Hein.
Oui, c'est le plus costaud, le plus rapide également sur le papier. Il y a un moment où il va falloir essayer de sortir de façon à s'isoler à l'avant et de faire en sorte que le coureur qui va rester avec Mats Pedersen, lui, ne roule pas. Et si Pedersen fait la faute de ne pas y aller tout de suite, il sera marron.
Derrière, on tente de se relayer. Ghana qui vient de prendre le relais à Stéphane Koum, mais l'écart continue de monter tout petit, petit à petit. 26, 27 secondes désormais, Pierre-Yves.
Oui, ça grandit quand même, alors qu'il n'y a plus que 5 km à la banderole actuellement et franchi par les trois hommes avec Houle qui fait signe du coude. Ça, c'est le langage du cyclisme aussi. On parlait des expressions. Là, c'est vraiment le corps qui parle. Le petit coup de coude pour dire à celui qui vous suit, allez, vas-y, j'ai fait mon relais. À toi de jouer maintenant. C'est le cas actuellement entre Fred Wright et Mats Pedersen. Ça fonctionne très bien, Cyril.
Oui, et j'ai le sentiment actuellement que c'est Houle qui roule le plus dans ce groupe.
Ah, parce qu'on peut tricher là à ce moment-là aussi. Hein.
Oui, mais lui, il ne se pose pas de questions. Il n'a pas envie que ça revienne. D'ailleurs, je crois que c'est aussi un petit peu pour ça qu'il a accéléré sur le final de la difficulté non répertoriée.
4 km 300 de l'arrivée désormais pour les trois hommes de tête. L'écart stabilisé à 26 secondes. Ça n'avance plus, ça ne monte plus. Combien leur faut-il pour espérer se regarder tranquillement dans le dernier kilomètre, Jérôme? Une trentaine de secondes?
Ouais, une bonne minimum. Trentaine de secondes, mais faut quand même pas se regarder. Hein. De toute manière, on sait les rouleurs qu'il y a derrière. Mais plus on va se rapprocher de la ligne d'arrivée, plus Koum, Ghana et Jorgensen vont aussi se regarder, vont commencer à cogiter aussi. Donc pour l'instant, c'est tout bénef aux trois hommes de tête. J'étais en train de regarder vraiment le final de l'étape et à 1 km 200-300 de l'arrivée, il y a un premier rond-point, le rond-point André Kivilev d'ailleurs, et une grosse épingle un peu après la flamme rouge sur la gauche. Donc il faudra être bien placé, même s'ils sont que 3, il faudra faire attention de ne pas se faire piéger dans ces pif-paf dans le dernier kilomètre.
4 km pour Ghana, Jorgensen et Koum qui sont toujours en retard de 25-26 secondes. Tu as lancé ton chrono, Cyril?
Oui, là, il a marché ce coup-ci. 26 secondes exactement.
26 secondes, voilà, pour les trois hommes qui s'entendent plutôt bien. Arnaud, toi qui te trouves derrière eux.
Oui. Alors c'est pas flagrant. Enfin, en tout cas, ce qui est pas flagrant, c'est que les trois hommes de devant s'entendent mieux que ceux qui sont derrière, Koum, Ghana, donc et Jorgensen. Mais oui, ça continue pour l'instant à bien s'entendre. On se regarde pas trop. On continue à se relayer de manière plus ou moins équivalente. Et puis un petit mot pour vous dire, pour en terminer, que si Mats Pedersen ne gagne pas l'étape, il aura au moins gagné le prix de la combativité aujourd'hui. Mais je suis pas sûr que ça soit ce qu'il est venu chercher.
Oh non, il veut plus. Il est gourmand, Mats Pedersen, ancien champion du monde, sacré en 2019. Il a également remporté
de démarrage à l'instant de Fred Wright, suivi comme son ombre par Mats Pedersen. En revanche, c'est un petit peu plus dur pour Hugo Houle. Ils savent, hein, les deux autres, que Mats Pedersen est plus fort et qu'il faut peut-être essayer d'éviter d'arriver avec lui dans les 500 derniers mètres. Mais pas de souci pour Mats Pedersen qui colle à la roue de Fred Wright et Hugo Houle qui est juste derrière, qui a réussi aussi à revenir. 30 secondes d'avance pour les trois hommes. Ça sera très très compliqué d'éviter une nouvelle victoire danoise sur ce tour aux couleurs rouge et blanche, incroyable depuis le départ de Copenhague, avec, on l'avait vu pendant la première semaine, Magnus Cort Nielsen, porteur du maillot à pois, vainqueur ensuite d'étape, et encore aujourd'hui la possibilité pour un Danois de s'imposer.
Mats Pedersen qui semble vraiment le plus fort, qui répond à toutes les attaques. Il a été attaqué successivement par Houle puis par Wright, et à chaque fois avec une impression de facilité, il est revenu dans la roue de l'attaquant. Hein.
Oui, mais Wright a quand même fait une erreur en attaquant de si loin, parce qu'il commence d'ailleurs à ne plus rouler. On va commencer à se regarder à 2 km
de l'arrivée. Houle qui attaque désormais. Ouais. Houle qui feinte l'attaque.
On est sur la piste là. Ça y est, on est sur la piste, mais pendant 2 km, c'est un petit peu osé quand même, parce qu'ils sont qu'à 35 secondes derrière les trois hommes et on ne sait jamais ce qui peut se passer. Allez, Hugo Houle qui essaye de relancer 1 km 900 encore. Fred Wright dans sa roue. On va à droite, on va à gauche et puis on se relève. Mats Pedersen, lui, n'a plus rien à faire. Il est tranquille. Si, il faut qu'il fasse une chose, c'est se retourner de temps en temps pour voir si derrière les trois hommes en chasse ne sont pas trop loin. 34 secondes nous indique-t-on, mais ça serait bien d'avoir quelques petits écarts un peu plus précis dans quelques instants,
parce que le rythme s'est calmé en tête de course. Les trois hommes s'observent. On est à 1 600 km. Hugo Houle qui prend le relais à l'instant même et qui se retourne fréquemment pour voir si Pedersen ou Wright ne l'attaquent pas. L'écart a priori inchangé, écart GPS, hein. C'est toujours un peu difficile de savoir précisément quelle est la différence entre ces trois-là et les trois autres qui sont en poursuite. 1 km 400 de l'arrivée, désormais toujours la même situation.
Toujours 34 secondes d'après les infos que je peux posséder sur Kung, Jorgensen et Ghana pour les trois hommes qui vont très prochainement arriver à hauteur de la flamme rouge du dernier kilomètre.
La flamme rouge qui arrive dans 200 mètres désormais. Hugo Houle qui emmène Mats Pedersen et Fred Wright. Ils sont tous les trois avec 33 secondes d'avance sur leurs trois anciens compagnons d'échappée, alors qu'ils passent à l'instant même sous la flamme rouge du dernier kilomètre.
RMC, la flamme rouge.
Hugo Hull, Fred Wright et Mats Pedersen, faites vos jeux. Plus que 900 mètres à parcourir. Un virage à gauche. Hugo Hull en tête. Mats Pedersen dans sa roue. Et Fred Wright en troisième position. Les hommes qui les pourchassent sont toujours à 30 secondes. Donc on les apercevra très certainement pas très très loin. Mais ils vont avoir du mal à rentrer. À moins vraiment de s'arrêter comme sur la piste dans un virage. Il faut aller chercher le paradis maintenant pour ces trois hommes. La victoire d'étape ici à Saint-Etienne. Toujours en première position. Hugo Hull qui se retourne légèrement. Il est sur la droite de la route. Il jette des petits coups d'œil sur la gauche pour voir si Mats Pedersen n'est pas trop loin ou s'il n'a pas essayé de démarrer. Et c'est surtout Fred Wright qui pourrait placer la première étincelle puisque lui est en troisième position. Et il souffle, il respire Fred Wright. Il est en troisième position dans ce virage à gauche. Plus que 350 mètres. C'est lui qui va très certainement démarrer. Il est à l'abri à droite le long des supporters et des spectateurs. Et c'est parti. C'est même Mats Pedersen très fort qui se sent capable de les battre sans problème les deux autres hommes. Et il a déjà mis 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, Mats Pedersen qui va s'imposer sans problème ici à Saint-Etienne très certainement. Il faut qu'il continue son effort. Il regarde derrière, il va pouvoir se relever. Attention Mats, ça ne peut pas se relever trop tôt. Victoire danoise du champion du monde 2019, Mats Pedersen à Saint-Etienne
qui s'impose devant Fred Wright et Hugo Hull, les trois hommes, les deux hommes battus qui n'ont rien pu faire face à la pointe de vitesse du Danois qui permet justement à ce petit royaume de décrocher une troisième victoire d'étape sur les routes de ce Tour de France en attendant peut-être le maillot jaune de Vingegaard dans quelques jours à Paris. Derrière, eh bien, c'est Stephen Kung qui lance le sprint des battus, des trois battus. Va-t-il aller au bout et décrocher cette quatrième place? Non, il est menacé par Jürgensen.
Il va passer juste pour garder la quatrième place. Jürgensen cinquième, Philippe Ogana sixième. Les trois se sont fait piéger par un mec plus costaud, le champion du monde 2019, lui qui s'est imposé à plusieurs reprises cette année, notamment du côté du Grand Prix du circuit de la Sarthe. Il a aussi remporté une étape à l'étoile de Bessèche et puis la troisième étape de Paris-Nice. Souvent placé, pas toujours vainqueur. Aujourd'hui, il était sans conteste le meilleur.
Ce n'est plus le Tour de France, c'est le Tour du Danemark. On était parti de Copenhague. Les Danois, motivés à l'extrême par le fait de partir de leur pays pour la première fois dans l'histoire du Tour de France, qui accumule les succès et les bouquets. Cyril, incroyable ce qu'ils font les Danois sur ce Tour de France.
Oui, à l'image de ce qu'ils font depuis plusieurs années d'ailleurs sur le plan international. Il est vrai qu'ils sont un peu plus galvanisés par rapport à ce départ du Tour de France qui ressemblait à un Tour du Danemark. Et puis le maillot jaune est danois, ça stimule aussi l'ensemble des coureurs danois et ils le démontrent aujourd'hui avec Mats Pedersen qui reste quand même un très grand champion.
Hugo Hull, troisième de l'étape, est au micro de Kevin.
J'ai surpris un peu tout le monde. Le Bahreïn a bien réagi, White. Du coup, j'ai sauté dans la roue. J'ai beaucoup, beaucoup souffert. Après, dans le bas, c'était mieux. Mais bon, dans le final, c'est clair que contre Mats Pedersen, ma grosseur, c'est compliqué un peu. Mais je suis très satisfait de la façon dont j'ai couru aujourd'hui parce que je ne pouvais pas vraiment faire mieux. Il y avait un groupe de costauds. On a bien résisté au peloton. Donc, très belle journée. J'ai pris beaucoup de plaisir à rouler avec des machines comme ça devant.
Qu'est-ce qu'on dit dans le final? Qu'est-ce qu'on se dit dans le final quand on est face à un Mats Pedersen comme ça? On se dit pourquoi on espère un miracle ou pas?
Après on ne sait jamais s'il avait lancé plus tôt, mais bon il a bien joué. Après il était très très fort. Il n'y a rien à voir. Il n'y a pas de regret à y avoir. J'ai tout mis ce que j'avais et puis content, c'est mon meilleur résultat sur le Tour de France. Quand même, troisième place pour moi c'est très bien. Je savais que j'étais en forme depuis le début du tour, mais ça allait le montrer. Donc je suis content aujourd'hui d'avoir été devant, d'avoir été chercher cette belle position.
Voilà Hugo Hull. Troisième de l'étape, Hugo Hull, le Québécois de la formation Israël Première Tech qui termine troisième, battu donc par Mats Pedersen. On a revu le sprint vu de haut. C'est impressionnant, la pointe de vitesse de Pedersen, il les a largués mais il les a enrhumés, Jérôme. Hein.
Oui, il n'y a pas eu match hein, pour ce sprint. On savait c'était le plus fort de l'échapper. C'est lui qui a créé la décision. Et après, avec Wright et Hugo Hull, en termes de vitesse pure, il n'y avait pas de match. Ils ont bien essayé, hein, chacun leur tour, de le piéger, d'attaquer. Il a répondu à toutes les attaques et au sprint il leur a mis trois vélos à Wright. Bon bah voilà, le plus fort a gagné et c'est comme ça. Je crois qu'Hugo Hull a bien tout résumé. Il était content d'être avec les machines, il a fait tout ce qu'il a pu et une troisième place c'est déjà très bien pour lui.
Mais il mérite cette victoire Pedersen parce que non seulement il a été le plus rapide au sprint, il a été le plus malin en éliminant des garçons qui auraient pu être plus dangereux peut-être pour le sprint dans la dernière difficulté du jour.
Et puis je rajoute un élément, tu as raison, il y a celui-là, mais il a aussi su être dans cette bonne échappée. Parce que voilà, pour tenter, pour gagner, il faut tenter. Et il l'a fait. Le peloton ne revient pas toujours. On l'a vu encore aujourd'hui. Donc en début de tour, on voyait des garçons hésiter. On n'a pas de Français devant. On a un représentant d'une équipe française. On n'a pas de Français encore dans l'échappée.
Non, les Français sont aux abonnés absents dans ces étapes pour Baroudeur. Ils sont encore bien placés au classement général. Mais décidément, ils ne savent plus intégrer les échappées. C'est trop costaud devant Cyril pour les coureurs français.
Ben oui, ils n'ont pas l'opportunité, ou ils ne sentent pas exactement le moment où ça peut partir. Puis ils ont peut-être mal aux jambes aussi. Ils ont fait un 14 juillet, le 13 juillet, donc ils ont peut-être beaucoup de mal à le digérer, c'est évident. Mais ceci dit, on va peut-être se consoler. C'est un Québécois, donc c'est un francophone qui termine troisième aujourd'hui.
Ouais, ben voilà. Mais bon, les Danois, eux, doivent exulter. Hein. On se rappelle de la folie au Danemark pour le départ, et là, je pense que ça doit être encore pire.
On est dans le dernier kilomètre. La flamme rouge pour le groupe maillot jaune de Jonas Vingegaard. Est-ce que tu peux nous expliquer, Cyril, ce qui est en train de se placer, puisqu'on court pour la 7e place? Nils Polit est parti, et derrière, on voit les BNB qui travaillent. Est-ce qu'il n'y aurait pas une petite histoire de points là-dessous?
De points UCI?
Non, je pense qu'il n'y a qu'une chose, qu'il n'y a plus de points UCI là pratiquement, parce qu'ils étaient 6 en tête. Non, je pense que BNB ont tout simplement envie de faire un exercice pour emmener le sprint à leur meilleur sprinter.
Pour Mozzato,
donc c'est une répétition pour une étape qui arrivera peut-être demain ou après-demain au sprint.
Mais attention, parce que Van Aert n'est pas loin non plus. Hein. Et Van Aert, il va se faire un plaisir de régler tout ça dans 350 mètres désormais.
C'est parti avec Laporte dans sa roue. Wood, Van Aert, Sénéchal est présent. Également Luca Mozzato, ça va pas partir très vite là, parce qu'on est pratiquement à l'arrivée. C'est parti pour Wout van Aert avec dans sa roue Florian Sénéchal. Mozzato est troisième. Florian Sénéchal qui va même aller passer Wout van Aert. Il y a sur le côté Dainese. Non, finalement c'est Wout van Aert qui passe devant Florian Sénéchal et Mozzato. Et puis Dainese doit être à la 10e place.
Voilà, avec Pasqualone qui était pas loin et Alexander Kristoff qui était finalement dans ce groupe.
Ah oui. Ils sont véritablement forcés, Wout van Aert. Hein. Il a pas creusé les écarts, il a regardé Sénéchal qui revenait quand même à sa hauteur, il a redonné un petit coup d'accélérateur et il termine donc 7e de cette étape. Il prend les quelques points qui restaient encore en jeu.
Cette bonne odeur,
la fin toi.
Oui, pas du tout. Pour Florian Sénéchal qui est quand même venu dans le sprint, il était en souffrance depuis plusieurs jours. Le fait de venir faire le sprint et de terminer deuxième derrière Wout van Aert, c'est pas un déshonneur. Ça veut dire qu'il retrouve peut-être un peu de peps.
Ouais. Et ça fait plaisir de voir le maillot de champion de France de Florian Sénéchal qui a bien failli ne pas participer au Tour de France et qui mérite sa sélection aujourd'hui.
Et on voit un maillot blanc sprinté aussi, celui de Tadej Pogacar, peut-être pour se dérouiller un peu les jambes.
Pour éviter les cassures surtout, je pense. Alors là, il n'y avait pas grand risque, mais on est toujours mieux à l'avant du peloton, même quand on arrive pour une 7e place, que prendre des risques dans la boule derrière.
Et c'est important, évidemment. On le voit au lendemain du passage du premier massif montagneux. On voit qu'il y a plus de chances pour les baroudeurs d'aller chercher une victoire d'étape. Hein. Les sprinteurs ont été éliminés en plus aujourd'hui par la difficulté. Ils se ressentent des efforts consentis durant 3-4 jours dans les Alpes. Aujourd'hui, c'était idéal pour les baroudeurs. Encore faut-il aller au bout quand même. Hein.
Oui, il y a toujours un événement ou quelque chose qui va se passer, qui va déclencher le déroulement.
Sans la chute de Caleb Ewan,
sans la chute de Caleb Ewan, non, parce qu'on est à moins de 2 minutes à ce moment-là.
Ouais, et bien moins, 1 minute 20 même.
Oui. Donc à partir de ce moment-là, Caleb Ewan ayant chuté, l'équipe Lotto se relève, n'a plus de raison de rouler, ça temporise un petit peu trop et l'échappée va au bout.
Très bien, 17h39 sur RMC. On vous rappelle donc la victoire du Danois Mats Pedersen, 3e succès d'étape pour les Danois, plus le maillot jaune de Vingegaard qui vient de taper dans la main de Wout van Aert le maillot vert. On va écouter les réactions des principaux leaders de ce Tour de France dans quelques instants. Mats Pedersen qui s'impose donc, le champion du monde 2019 qui a enrhumé ses adversaires dans le sprint final. On revient dans quelques instants direct de Saint-Etienne au terme de cette 13e étape.
RMC Intégral Tour,
Christophe Cessieux.
À Saint-Etienne, au pied du stade Geoffroy Guichard, au terme de cette 13e étape du Tour de France, étape de transition après le passage par les Alpes et avant les Pyrénées que le peloton abordera dans quelques jours à partir de mardi. Transition donc, et la plupart des leaders du classement général sont restés tranquillement à l'abri aujourd'hui sous la chaleur entre Bourdoisan et Saint-Etienne, où c'est donc un Danois, une nouvelle fois un Danois qui s'impose, ancien champion du monde, sacré champion du monde en 2019, une grosse cuisse, deux grosses cuisses plus exactement, celle de Mats Pedersen qui s'est imposée au terme d'une très longue échappée, une échappée de baroudeur qui est donc allée à son terme, Pierre-Yves.
Il y en a marre des Danois, un Danois qui l'emporte devant un Britannique, on a failli encore avoir un doublé britannique, les Français ne sont pas là malheureusement, mais voilà, on va peut-être pouvoir parler avec un Français, tiens.
Ben oui, bien. Un Français bien, bien malheureux puisqu'il a été contraint de quitter le Tour ce matin, victime d'un test positif au Covid. Il est avec nous et franchement, on le remercie parce que le moral ne doit pas être au beau fixe pour Warren Barguil, Wawa, qui nous a régalé dans ce Tour de France avec une longue échappée, même s'il n'y a pas eu la victoire d'étape. Et j'imagine que ce soir, le cœur est gros. Bonsoir Warren, merci d'être avec nous.
Ouais, bonsoir, merci.
Bon, le moral dans les chaussettes un peu quand tu as appris le test positif au Covid.
Ouais, bah de toute façon, j'ai passé une nuit très compliquée. J'avais des frissons et beaucoup de fièvre, donc c'était pas possible de monter sur le vélo ce matin, que ce soit le Covid ou pas. C'était pas possible de monter sur le vélo ce matin.
Ouais, d'autant qu'hier tu as été victime d'une chute. On l'a pas vu sur les images de la retransmission, mais c'était une chute assez costaud en plus. Hein.
Non, pas trop. Tout le monde a pensé ça, mais ouais, c'est quasiment rien. J'ai à peine l'épaule.
D'accord.
Un petit peu abîmé et le côté, mais quasiment. Ah, ouais.
Ouais, c'est costaud les Bretons. Hein. Même quand ça tombe, ça se fait pas trop mal.
Warren, on imagine qu'il y a beaucoup de frustration parce que tu étais sur un Tour de France où tu avais su te montrer. Et puis on imaginait qu'il y avait encore des possibilités dans les Pyrénées d'aller chercher des choses intéressantes.
Ouais, il y avait encore beaucoup de choses à aller chercher. Je me suis fait très plaisir avec mon échappée. Et il y a demain, c'était une étape que j'avais coché, et forcément il y a la déception de pas être au départ demain de l'étape que j'avais vraiment visée. Je trouvais que ça me correspondait bien avec cette arrivée allemande.
Rassure-nous, ton état de santé pas trop grave quand même si tu as passé une mauvaise nuit, ça va aujourd'hui quand même, c'est pas inquiétant.
Ouais, ça va, j'ai une grippe en fait. Là, j'ai les symptômes d'une grippe, quoi. Je porte mon masque FFP2 avec mon beau-frère dans la voiture et puis j'ai des frissons de temps en temps et ouais. Le plus dur c'est que je vais pas pouvoir embrasser ma femme ni mon fils en arrivant parce que ma femme elle est enceinte et il faut pas que je la
contacte. Ah ouais. Tu vas être isolé dans la maison alors, isolé au fin fond du garage quoi.
Voilà, je vais être au fond du garage ou dans la cave, je sais pas encore. Je sais pas quelle place elle a choisi.
Après on sait que bon voilà, logiquement tu vas vite te remettre. Il y a quels objectifs derrière après avoir passé la frustration du tour là, tu avais quoi au programme?
Je devais faire la classique à Saint-Sébastien, c'est que le critérium avant et après vraiment préparer des courses en France avec le Limousin et les courses aussi au Canada, donc puis il y avait plouet surtout à la maison, donc là je vais prendre 4-5 jours de repos et refaire des tests pour savoir si je suis apte à reprendre le vélo ou pas.
En attendant, il va falloir se reposer un peu parce que malgré tout, même si tu arrêtes ce Tour de France à une grosse semaine de l'arrivée, il a été très dur. Comment tu l'as vécu ce Tour? On t'a vu à l'attaque, on le disait il y a quelques instants. T'es pas passé loin d'une victoire d'étape l'autre jour. On a retrouvé quand même le Wawa qu'on adorait et qui nous montrait de belles choses par le passé. Cette année, tu te sentais bien sur ce Tour de France?
Ouais, je me sentais bien. C'est un Tour très dur. Pour aller dans les échappées, c'est hyper compliqué parce que tout le monde veut être dedans et tout le monde a mis un peu la notion en place qu'une fois qu'ils ont fini leur boulot, tout le monde se relève un peu et récupère pour le lendemain. Et du coup, pour prendre les échappées, c'est très très compliqué. Il faut avoir une partie de chance et aussi être très très fort.
Les gens qui suivent le Tour de France s'étonnent de ne pas voir plus de Français, notamment dans les étapes comme aujourd'hui. Tu sais, une étape de baroudeur, mais pour prendre l'échappée, on a l'impression que c'est de plus en plus compliqué.
Ouais, je sais pas si vous avez regardé l'étape comme moi, les noms qu'il y avait devant. Ouais. Mats Pedersen, Philippe Ogana, Stéphane Thung, c'est pas n'importe qui. Donc ils sont sortis dans la bosse une première fois si j'ai regardé l'étape. Et il y a eu des Français qui ont été à l'avant juste avant la bosse. Je pense à mon copain de bus et collègue derrière, Mathis Louvel. Après ça s'est pas fait parce qu'il a pas eu de chance et des fois ça joue à peu de choses.
Mathis était devant, effectivement, en ce début d'étape. Il a tenté des choses. Et dans ta liste du programme, tu n'as pas cité le championnat du monde. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est pas pour voilà, parce que tu veux pas te porter la poisse? Ou est-ce que c'est parce que tu as des informations sur la sélection? Il y a déjà des messages qui t'ont été envoyés? Ou c'est vraiment un objectif?
Non, c'est pas ça. C'est que je vais être papa fin septembre, début octobre. Donc, c'est plus important pour moi de voir mon bébé.
Ouais,
et que le championnat du monde, même si ça reste un championnat du monde magnifique, le problème c'est qu'il est très très loin et le temps de rentrer en avion, il peut se passer plusieurs jours. Donc c'est le choix de la raison.
Très bien Warren, eh bien, on te souhaite de bien récupérer au plus vite et de te Merci. Revoir rapidement sur les routes pour des épreuves et d'aller chercher la gagne comme tu l'as fait par le passé. Merci Warren.
Merci, bon retour
et bon séjour dans le garage donc pendant quelques jours. Voilà, Warren Barguil qui était avec nous, c'était très sympa de l'avoir.
Et on précise qu'il y a encore des bonnes choses à faire pour Arkea Samsic puisque Nairo Quintana s'est montré, il est passé tout près d'une victoire il y a quelques jours et que dans les Pyrénées on ne peut pas le revoir.
Sixième au classement général, Nairo. Il est à 3 minutes 58. Le podium est toujours possible pour le grimpeur colombien, qui est d'ailleurs le meilleur colombien de ce Tour de France jusqu'à présent. Voilà, il y a pas d'eau. Les autres se sont un peu passés à côté pour l'instant de ce Tour de France.
Oui.
En revanche, Nairo retrouve des couleurs.
Mais le cyclisme colombien souffre. Rigoberto Urán en a parlé et il a fait des déclarations pendant le Tour de France en disant si on ne se reprend pas en main, si on ne retravaille pas de façon globale sur notre cyclisme actuellement, eh bien, il va y avoir de grosses difficultés parce que la relève n'est pas là.
On va écouter un coureur français, le premier de l'étape, Florian Sénéchal, qui a terminé juste derrière Wout van Aert, qui a réglé le sprint du peloton tout à l'heure, arrivé avec un retard un peu plus de 3 minutes, je crois, derrière le vainqueur de l'étape, Mats Pedersen. Florian Sénéchal, donc le champion de France de la formation Quick-Step.
Deuxième du sprint du peloton.
Ouais,
j'ai pu compter sur vous,
sans ta voix. Non, j'étais pas bien au départ, donc on était un peu sur l'attente. Et ensuite, le moteur s'est débloqué. J'ai dit à mon DS, je suis vraiment bien aujourd'hui. Si on doit mettre quelqu'un, vous pouvez compter sur moi. Mais ils ont attendu. Et on a attendu trop longtemps. Et après, c'était trop tard parce que devant, c'était des machines. Donc voilà, je le sentais bien. Et après, c'était question de feeling et une question de confiance. Et il fallait aussi avoir des coéquipiers frais. Et tout le monde était un peu fatigué. Donc c'est un peu normal que c'était dur de contrôler.
Vous avez senti que l'échappée irait au bout assez rapidement ou pas?
Non, parce que je voyais que l'auto était bien gros. Peut-être que si l'auto ne serait pas tombée, il y aurait eu moyen. Mais voilà, il y a eu des circonstances de course. Je pense que la chute de l'auto a mis un peu le chaos dans le peloton.
Votre sprinter attitré, Fabio, a une journée difficile.
Oui, il n'était pas bien, il l'a dit direct. Et moi, j'ai dit direct à la radio que je me sentais bien et qu'on pouvait mettre quelqu'un à enrouler. Mais bon, voilà, il y a eu un problème de communication. Et puis, depuis devant, c'était vraiment des machines. Après les étapes d'hier, c'est normal que ce soit dur de boucher le trou.
Merci.
Voilà, un peu frustré, on le comprend, Florian Sénéchal. Il avait les jambes, il le dit à son directeur sportif, mais ils ont tardé à revenir. Ils avaient tout misé sur Jakobsen. Et c'est dommage de ne pas changer son fusil d'épaule quand on voit qu'un coureur a les bonnes jambes et qu'il le dit.
Non, ils ont changé. Il l'a dit. Il a dit que Jakobsen avait dit très vite qu'il n'était pas.
Ils ont mis personne à l'avant.
Mais c'est la chute de Caleb Ewan qui a mis un peu le bazar là-dedans.
Tu sais que ça a mis trop de temps. Peut-être que s'ils avaient.
Oui, mais ils sont venus après la chute de Caleb Ewan rouler. Après, ce que j'aime bien chez Florian et pour avoir fait équipe avec lui chez Cofidis, je le connais très bien. C'est quelqu'un qui assume ses responsabilités. Hein. Il n'hésite pas à dire aujourd'hui je suis bien. On peut jouer ma carte. Même bien sûr, ça marche pas à chaque fois. Mais vous savez, des fois, quand vous avez surtout dans une équipe comme Quickstep qui a beaucoup de grands noms et de grands champions, faut oser dire ok, je suis bien, j'y vais, l'équipe va rouler pour moi, et lui il n'hésite pas. Dommage, aujourd'hui c'était pour la 7e place, mais il aura d'autres ouvertures parce qu'apparemment les jambes sont de mieux en mieux.
Oui, mais le souci c'est que dans cette équipe Quickstep, s'il n'y avait plus Jakobsen, il n'y a plus Asgreen, il n'y a plus Morkov qui était derrière, il y a Lampard qui a chuté hier, donc il ne reste plus grand monde. C'est
Lampard qui a commencé à rouler d'ailleurs avec les Bike Exchange, mais il s'est assez vite écarté. Alors après, pour Florian Sénéchal, faudra s'inspirer de Pedersen, se glisser dans une échappée. On sait qu'il a une pointe de vitesse vraiment très très bonne, Florian. À l'image d'un Pedersen aujourd'hui, il peut se glisser dans un coup et gagner l'étape dans un petit comité.
Alors, autre Français qui pourrait aussi avoir sa chance un de ces jours, mais on le sait, il y a quand même pas mal de choses à faire au sein de cette formation Jumbo. C'est Christophe Laporte qui est au micro de Kevin Morand. On l'écoute tout de suite. Christophe Laporte.
C'était des hommes forts devant, donc On se doutait que ça allait être difficile de les ramener, enfin de ramener le peloton. Je pense qu'avec la chute de Caleb Ewan aussi, ça n'a pas aidé. Mais voilà, pour nous, c'était une journée dans le contrôle, donc tout s'est bien passé.
Racontez-nous un petit peu votre quotidien, Christophe. C'est la première fois que vous vous retrouvez dans une équipe qui défend le maillot jaune. Comment ça se passe? C'est quoi trois mailles? En quoi ça change la manière de rouler, par exemple, pour un coureur comme vous?
Bah, on court beaucoup plus à l'avant. Là, on est concentré sur Jonas et aussi sur Wout. Mais voilà, c'est il y a que des très bons coureurs dans l'équipe, donc ça facilite la chose. On court toujours à l'avant, on prend un peu moins de risques. Il y a beaucoup de travail, mais c'est beaucoup de plaisir.
Il y a quand même deux maillots à défendre, hein, pour aller jusqu'à Paris. Ça fait pas beaucoup, ça, non?
Ouais, je pense qu'on peut le faire. Après, le maillot vert, il y a déjà pas mal de points d'avance. Après, le maillot jaune, on verra. Ça se fera aussi à la pédale dans l'école. Donc, on va voir comment ça va se passer.
Christophe Laporte, coéquipier modèle de la formation Jumbo, l'un des hommes forts de cette équipe qui en compte quand même pas mal. On va citer évidemment Jonas Vingegaard, Primoz Roglic qui aujourd'hui n'est plus dans le coup pour le classement général, mais équipier de luxe de Vingegaard, ou encore Wout van Aert, maillot vert, qui règle le sprint du peloton et qui termine sixième de cette étape remportée donc par Mats Pedersen. Voilà pour l'intégrale Tour de France, messieurs. Vous avez été pas mal aujourd'hui, hein?
Oh. Pas mal.
On va mettre 15.
Non, moins quand même.
Moins 14.
Ouais, 14, un petit 14.
Moyen. Ah, vous êtes dur.
Non, bah, attendez, on va vous mettre des notes comme ça tous les jours.
Je crois que nous aussi, on va vous mettre
des notes. Non, on va pas te barrer. On vous retrouve tout à l'heure, messieurs, à 19h pour l'after tour. On reviendra donc sur la victoire de Mats Pedersen et on s'intéressera à l'étape de demain, la montée de la Croix-Neuve à Mende, où on devrait assister à un beau spectacle qui sera court, hein, puisque la montée est courte, mais qui devrait nous réserver de belles choses. Merci, voilà pour l'intégrale tour. L'intégrale sport arrive maintenant avec Simon Dutin aux commandes. Il est là, il sait tout faire, il est partout dans toutes les émissions. Ça va, Simon?
Salut Christophe. Mais oui, mon cher Christophe, à chacun son tour avant de vous redonner la main à 19h pour l'after tour avec toute la Dream Team Vélo. Et même si on va vous emprunter les services de Cyril Guimard aux alentours de 18h30, nous on va faire le tour de l'actualité sportive dans son ensemble, parce que le PSG dispute en ce moment son premier match de préparation. C'est la première de Christophe Galtier. On sera en direct du Camp des Loges dans un instant. Un mercato qui s'agite aussi du côté parisien et ailleurs. Mercato chaud, évidemment. Les Bleus de Corinne Diacre qualifiés après deux rencontres à l'Euro, mais qui ont reçu une très mauvaise nouvelle aujourd'hui. Le forfait de Marie-Antoinette Katoto. Les débuts des mondiaux d'athlétisme à Eugene. On sera avec Aurélien Tiercin, les yeux, les oreilles et la voix de RMC durant toute cette compétition. Et puis, on sera également aux États-Unis avec un certain TJ Parker qui fait du rab pendant les vacances et qui s'offre une petite expérience d'assistant coach du côté des Bucks de Milwaukee. Il sera l'invité de l'Intégral Sport qui démarre dans un instant sur RMC. À tout de suite.